Merci d'écouter RFI, il est 5h ici à Paris, 23h à Washington.
Martin Guèze.
Et à la une ce matin, une déclaration d'indépendance économique selon Donald Trump, une déclaration de guerre commerciale pour le reste du monde. Le président américain a sorti son plus beau tableau pour détailler au cas par cas les nouveaux tarifs douaniers que les États-Unis appliqueront à partir de samedi aux importations mondiales. Si le Brésil, le Sénégal ou la RDC s'en sortent bien, ce n'est pas le cas de l'Union européenne et des pays asiatiques, la Chine est particulièrement visée. En Birmanie, nouveau bilan, plus de 3000 morts après le terrible séisme de vendredi dernier. L'aide humanitaire tarde à arriver, la junte qui annonce un cessez-le-feu avec les rebelles pour reconstruire le pays. Et puis une délégation de sages de l'Union africaine est arrivée au Soudan du Sud pour tenter de trouver une solution à la crise politique et sécuritaire que traverse le pays. Le président ougandais Yoweri Museveni est également attendu aujourd'hui. Une opération perdant-perdant, voilà ce que déplorent par exemple les industriels allemands. Après la guerre commerciale et mondiale officiellement déclenchée par Donald Trump ce mercredi soir, tout le monde en prend pour son grade et devra passer à la caisse pour exporter aux États-Unis des nouveaux droits de douane réciproques massifs et variables selon les pays avec un minimum de 10%, mais qui montent jusqu'à 46% pour le Vietnam et 34% pour la Chine. Pékin qui sera même taxé à hauteur de 54% puisque de précédents droits de douane sont déjà en œuvre. Les bourses asiatiques ont d'ailleurs dégringolé après ces annonces. L'Union européenne se verra taxer à hauteur de 20%. Les tricheurs et charognards étrangers ont déchiré notre rêve américain, a dénoncé Donald Trump. Et s'il y a donc beaucoup de perdants après les annonces du président républicain, il y a aussi quelques gagnants. Agnieszka Komor qu'on entendra un petit peu plus tard, c'est droit.
L'offensive protectionniste de Washington passe par un droit de douane supplémentaire de 10% sur toutes les importations et par des majorations ciblées pour les pays jugés particulièrement hostiles en matière commerciale. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Ni le Mexique ni le Canada n'apparaissent sur la liste. Signataires d'un accord de libre-échange avec les États-Unis, ces pays relèvent d'un autre régime. Et puis, l'industrie américaine de l'acier a besoin de s'approvisionner notamment au Mexique, mais aussi au Brésil. Le Brésil ne prend que 10%, tout comme le Royaume-Uni, qui négocie un traité commercial bilatéral et s'en sort avec un taux de 10%. L'Europe et l'Asie sont en revanche particulièrement visées. L'Union européenne, elle, prend 20%. Quant à la Chine, l'addition est astronomique. Une nouvelle taxe de 34% s'ajoute aux 20% déjà mis en place. Le Japon, l'Indonésie, le Cambodge, ces pays risquent de voir leurs économies touchées fortement. Ainsi, la guerre commerciale de Trump est clairement déclarée.
Agnieszka Komor du service économie de RFI. Ces droits de douane qui doivent donc entrer en vigueur ce samedi à 4h01 du matin temps universel. Alors que ce jeudi, d'autres taxes sur les voitures importées et les pièces détachées seront appliquées. Et ce matin, la Chine exhorte les États-Unis à annuler immédiatement ces nouveaux droits de douane, taxe que le Japon juge extrêmement regrettable. Ces nouveaux droits de douane, on y revient bien évidemment tout au long de la matinée entre nos différentes chroniques et invités sur RFI. À Gaza, le patron de l'ONU s'est dit choqué de la guerre sans limite menée par Israël après de nouvelles attaques contre un convoi médical de secours. Plus de 400 humanitaires qui ont été tués par l'armée israélienne depuis le 7 octobre 2023. Une fosse commune a été découverte à Rafah, dans le sud de l'enclave, où les corps sans vie de 15 secouristes ont été retrouvés après des tirs israéliens sur des ambulances. Israël, dont les frappes ont fait au moins 30 morts ce mercredi à Gaza, selon les secours locaux. L'État hébreu qui annonce avoir commencé à morceler la bande de Gaza en saisissant des zones du territoire pour forcer le Hamas à rendre la soixantaine d'otages restants, selon le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Nouveau bilan en Birmanie, plus de 3000 morts après le séisme de vendredi dernier. La junte birmane, qui a par ailleurs annoncé un cessez-le-feu temporaire dans sa lutte contre les groupes rebelles du pays, dans le but d'accélérer les efforts de reconstruction, selon un communiqué. Sur place, l'aide humanitaire arrive très difficilement, les besoins sont immenses. Les travaux de recherche et de déblaiement qui n'ont même pas encore commencé. Carole Izzo.
Les secouristes birmans sont complètement dépassés par la situation. Dans certains endroits, comme dans la ville de Sagaing, un tiers des bâtiments se sont effondrés, faute d'aide des autorités. C'est la population civile elle-même, sans équipement, qui s'organise pour commencer les travaux de recherche et de déblaiement. Des odeurs de cadavres en décomposition ont commencé à envahir les rues de la ville. Pourtant, si des délégations russes, chinoises et indiennes ont été admises à l'intérieur du pays, les secouristes des pays occidentaux ont bien du mal à obtenir les autorisations nécessaires pour rejoindre les zones affectées. C'est le cas de l'organisation Tanki, un groupe de secouristes français équipés de radars. Ils sont bloqués depuis 48 heures à l'aéroport de Rangoon.
À l'aéroport de Rangoon, ils nous ont accueillis des bras ouverts, vraiment. Le personnel de l'aéroport, ils nous ont accueillis dans le lounge depuis hier. On est très, 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 très bien accueillis, sauf qu'on n'a toujours pas les visas.
Mercredi 2 avril, les soldats birmans ont ouvert le feu sur une équipe de la Croix-Rouge chinoise, précisant par la suite qu'ils n'avaient pas été notifiés du passage du convoi. La junte craint que les armées rebelles, sous couverture de convois humanitaires, n'en profitent pour étendre leur position et gagner du terrain. En attendant, certaines populations n'ont toujours eu accès à aucune aide. Carole Izou, Jadel Khoury, Bangkok, RFI.
RFI à Djouba, 90.4 FM.
RFI, 5h06, ici à Paris comme à Djouba, au Soudan du Sud, où un groupe de sages de l'Union africaine est arrivé pour une mission de 4 jours. Alors que la crise politique et sécuritaire est à son comble dans le pays, l'ancienne juge kenyane Effie Owor et l'ex-président burundais Domitien Ndayizeye sont arrivés dans la capitale pour tenter de désamorcer les tensions alors que l'accord de paix de 2018 est très fragilisé. Le vice-président Riek Machar est en résidence surveillée depuis plus d'une semaine alors que des combats entre ses hommes et les forces loyales au président Salva Kiir ont été rapportés ces derniers jours dans le Haut-Nil, au nord-est du pays. Le président ougandais Yoweri Museveni est également attendu à Djouba pour tenter de trouver une solution, Florence Mito.
Les sages de l'Union africaine ont d'abord rencontré le président Salva Kiir et son cabinet. Selon Domitien Ndayizeye, qui s'est exprimé à l'issue de la rencontre, l'équipe présidentielle a réitéré son attachement à l'accord de paix et assuré être en train, je cite, de résoudre la question du vice-président Riek Machar en accord avec la loi. La délégation de l'Union africaine va-t-elle pouvoir rencontrer Riek Machar? Le suspense reste entier puisque Raila Odinga, envoyé il y a quelques jours par le président kényan William Ruto, n'a pas eu la permission de s'entretenir avec lui. Dans un communiqué, le parti de Riek Machar dénonce d'ailleurs le climat de peur, d'intimidation, d'arrestation et de détention à Djouba et appelle à ce que les efforts de médiation se déroulent ailleurs dans un lieu neutre. Mais c'est pour l'instant dans la capitale sud-soudanaise que se joue le sort de l'accord de paix, comme sans doute aussi l'avenir politique de Riek Machar. Le président ougandais Yoweri Museveni doit venir à Djouba ce jeudi, garant de l'accord de paix de 2018, il ne cache pas son soutien à Salva Kiir, un soutien notamment militaire. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Au Sénégal, l'Assemblée nationale a révisé la loi d'amnistie adoptée sous Macky Sall. Un texte datant de mars 2024, voté pour apaiser les tensions politiques. Hier, la loi d'interprétation a donc été validée à l'issue d'une journée marathon de débats, ce qui ouvre la voie à des poursuites. La répression des manifestations de l'opposition qui avait fait au moins 65 morts entre 2021 et 2024. On termine au Parlement européen qui s'apprête à voter en procédure d'urgence un projet de simplification des textes liés au pacte vert. Un détricotage qui vise à restaurer la compétitivité des entreprises européennes selon la Commission. Le but reste de rendre le vieux continent neutre sur le plan climatique d'ici 2050. Un texte très décrié qui illustre de nouvelles divisions et de nouvelles alliances dans l'hémicycle européen. Romain Lemeresquier.
C'est le grand sujet au Parlement européen cette semaine. Un projet de législation qui vise à simplifier les obligations réglementaires des entreprises portées essentiellement par les conservateurs du Parti populaire européen, le plus grand groupe de l'hémicycle. Un texte qui réjouit également les élus des différents groupes d'extrême droite, puisqu'il vise à détricoter le travail réalisé lors de la précédente législature, ce que reconnaît François-Xavier Bellamy, député européen et vice-président exécutif des Républicains.
Il faut évidemment savoir défaire ce qui a été mal fait. Il est tout à fait normal maintenant que nous avons une autre majorité dans ce Parlement, que, en restant cohérent avec les combats que nous avons menés, nous puissions réussir à renverser la tendance.
Si dans le camp des conservateurs on se réjouit de cette orientation, à gauche, mais aussi dans le camp écologiste, on ne le comprend pas, Marie Toussaint, députée européenne et vice-présidente du groupe des Verts.
Aujourd'hui, toutes les études montrent que les fameuses normes européennes contribuent à la sécurité, à la compétitivité des entreprises à travers le monde. Nous devons protéger le modèle européen et ce modèle européen, il ne faut pas le détruire comme ce qui est proposé aujourd'hui. Il n'y a pas de raison et d'ailleurs aucune étude d'impact et aucune consultation digne de ce nom n'a été réalisée par la Commission européenne.
Ce projet sera soumis au vote des députés européens ce jeudi. Si le oui l'emporte, les discussions en commission débuteront dès la semaine prochaine, ce qui, selon François-Xavier Bellamy, permettra enfin une entrée en vigueur de ces simplifications dans les prochains mois. Romain Masqué, Strasbourg, RFI.
Et c'est la fin de ce journal RFI 5h10, ici à Paris tout de suite. Grand reportage sur notre antenne.